Hey, c'est intense, hein, ce qui se passe au centre Louise Vachon de Laval. C'est un centre, c'est une résidence, en fait, un centre de réadaptation qui héberge donc des patients. Et certains de ces patients ont de très graves troubles de comportement. Certains sont vraiment extrêmement agressifs. Et pour essayer de comprendre ce qui s'y passe, on va aller rejoindre Marjolaine Aubé. Elle est la présidente du syndicat des préposés aux bénéficiaires CSN, donc au centre. Bonjour, Madame Aubé.
Bonjour.
Décrivez-nous un petit peu là ce qui se passe chez vous, ce que le journaliste de la presse ce matin, Vincent Larouche, a appelé la maison de l'horreur.
Oui. Ben, écoutez, nous, syndicalement, c'est suite à la fusion des accréditations, la loi 10 du Dr Barrette qu'on a fusionné avec Louise Vachon. Donc, quand les fusions d'accréditation ont été terminées, moi et plusieurs personnes de mon équipe, on nous sommes allés visiter le centre Louise Vachon qu'on ne connaissait pas. Mm-hmm. Et c'est là qu'on s'est aperçu que rien n'allait là-bas. Le nombre d'accidents de travail qu'il pouvait y avoir, c'est une moyenne de 30 par mois. Alors, on peut calculer que c'est une par jour. Donc, les lieux physiques n'étaient pas adaptés à cette clientèle-là. Alors, c'est des gens qui ont le problème du trouble de... Ce sont des autistes, troubles graves de comportement. Donc, le personnel, ce sont des assistants en réadaptation, mais ils sont formation de préposés aux bénéficiaires. Donc, les lieux physiques, ils n'étaient pas adaptés pour cette clientèle-là. Tout se faisait démolir à tout bout de champ. Le nombre d'accidents de travail... Et puis,
on voulait dire que tout se faisait démolir. Qu'est-ce que vous voulez dire, là?
Les unités, les plafonds, les poignées de porte, les lumières, tous les lieux physiques là, ne sont pas adaptés. Il y a un poste où ce que le personnel peut observer les patients. À l'autre côté, c'est comme des appartements vitrés. Et même ces postes-là qui sont supposés être sécuritaires se faisaient défoncer à tout bout de champ par les résidents du centre Louise Vachon.
Mais ils défonçaient ça comment, là?
Avec leurs pieds.
OK, ils tombaient comme en crise, puis là,
oui.
Ils défonçaient?
Ils passaient tout, oui, puis s'attaquaient aux gens. Et ça faisait un an qu'on a appelé la CSST, qu'on a interpellé la direction du CIS de Laval. Ça faisait un an qu'on leur disait, qu'est-ce que vous attendez, qu'il y ait un mort? Donc, quand il y a eu le refus de travail de la part de nos travailleurs, là, ils ont comme plus le choix. Alors, il y a eu des interventions faites par la SNESST, par la STAS. Juste dans les lieux physiques, là, il y a 32 points à corriger pour que ça soit sécuritaire. Et là, ça dure depuis des années que c'est comme ça. Il n'y a pas seulement les agressions physiques sur le moment. C'est que le lendemain de cette agression-là, on demande aussi à nos travailleurs d'aller se promener à l'extérieur ou dans leur voiture personnelle avec ces mêmes résidents-là pour les amener au centre d'achat.
Hein?
Oh oui, on oblige les travailleurs, certainement. Ensuite, il n'y a pas juste ça. Il y avait les horaires de rotation là-bas qui étaient appliqués, OK, au jour le jour. Donc, un lundi, moi, je pouvais travailler de jour. Le lendemain, je travaillais de soir.
Oui, mais Mme Bobé, Restons sur le danger que posent certains des résidents qui sont là pour les employés. Là. Donnez-nous deux ou trois cas très précis qui se sont produits où les employés se sont sentis menacés.
Mais c'est arrivé à plusieurs reprises, si je vous dirais, avant qu'il y ait des agents d'intervention, c'est les policiers de Laval qui viennent avec des taser guns, là, ça venir chercher les résidents quand ils sont en crise. Ah oui, ben ça, c'est régulier, là. Ça fait toutes les semaines que les policiers venaient à deux, à quatre ou à six. Et certainement, puis ils étaient transférés après ça à la Cité de la Santé le temps qu'ils se calment, puis ils nous les ramenaient. Donc, la dernière fois, quand il y a eu le refus de travail, c'est pas compliqué, c'est que le résident a tout arraché les poignées de porte et menacé le personnel avec. Et de l'étranglement, des morsures, des doigts écrasés entre les portes, c'était à tous les jours, M. Drainville, là.
Okay.
Ça leur a pris un an, notre employeur, pour comprendre. Puis c'est grâce à l'inspecteur de la CSST qu'on est intervenu. Bon. On a trouvé un terrain d'entente.
Mais là, l'inspecteur de la CSST, dans le fond, voyant ce qui se passait...
Oui.
A recommandé à l'institution, là, appelons-la la CSST, là, parce que là, maintenant,
oui,
il est bon. La CSST, dans le fond, a donné à vos employés le droit de ne pas intervenir quand ils sentent que leur sécurité physique est menacée. Exact?
Oui,
bon,
exactement.
Ben, il arrive quoi avec le patient à ce moment-là qui est en crise? Il pète tout, puis à un moment donné, il s'écrase dans un coin, puis là, une fois qu'il s'est calmé, vous allez le chercher? Comment ça marche?
Non. Alors, nous, on avait émis cette solution-là depuis plus d'un an, mais l'employeur n'écoutait pas. Alors maintenant, on a des agents d'intervention qui nous proviennent du centre jeunesse. Leur formation, c'est d'intervenir. C'est pour ça que ça s'appelle des agents d'intervention. Ils ont des techniques. Alors, des crises qui pouvaient durer 2 heures avec un résident, avec l'arrivée des agents d'intervention, ben ça dure 5 minutes.
OK, qu'est-ce qu'ils font?
À contrôler le résident, de le mettre dans sa chambre le temps que ça se calme. Donc, écoutez, puis ça s'est vraiment fait vraiment drastiquement le changement, là. Parce que les résidents, maintenant, savent aussi qu'il y a des agents d'intervention, donc portent moins aussi la main sur le personnel. Mais ça a pris une crise majeure pour réussir à faire entendre raison à notre employeur.
Mais les agents d'intervention, qu'est-ce qu'ils font que vos préposés aux bénéficiaires ne faisaient pas?
Des formations. Ils ont la formation 1 d'agent d'intervention. Ensuite, ils ont la formation ITCA. Que nos propres membres ont, mais il y a plusieurs degrés dans l'ITCA et une formation qu'on appelle aussi bouclier. Alors, c'est vraiment des techniques d'intervention et c'est extrêmement rapide, là. Donc, au lieu d'avoir des crises et que tout soit démoli, que les policiers arrivent, donc les interventions, maintenant, je vous dirais, là, ça dure en moyenne 5 minutes au lieu de 2 heures ou une journée complète. Non, nos gens, le nombre d'accidents de travail est pas complètement éliminé, mais au lieu de 30 par mois, ben il peut en avoir un ou deux.
OK. Puis vous nous dites que dans la majorité des cas, les résidents de ce centre de réadaptation sont des adultes qui sont autistes, c'est ce que vous nous dites?
Oui. Ben le centre Louise Vachon, c'est plus que ça, mais il y a une partie, il y a 4 unités qu'on appelle ça les unités TG. Donc, troubles graves de comportement. Parce que le reste du centre Louise-Vachon, t'as d'autres personnes aussi qui sont des polyhandicapés ou autres.
Est-ce qu'il y a des problèmes de santé mentale dans certains cas?
Ben oui, si on le veut, mais c'est plus des gens vraiment qui sont autistes. Donc, mais c'est vraiment au niveau de nos unités TGC. Il y en a 4.
D'accord.
Et c'est là que le niveau de violence est extrême.
Bien, la bonne nouvelle, en tout cas, c'est que vous avez trouvé, avec les agents d'intervention là, du centre jeunesse, une façon d'intervenir justement pour à la fois calmer les résidents et protéger le personnel. Marjolaine Aubé, présidente donc du syndicat local des préposés aux bénéficiaires CSN. Merci beaucoup pour l'entrevue.
Merci, M. Drainville.
Oh. Et là, on va aller rejoindre le Dr Gilles Chamberlain, qui est médecin psychiatre, directeur des services professionnels à l'Institut Pinel. Bonjour, Dr Chamberlain.
Bonjour.
Écoutez, quand j'entends ça, d'abord, je suis rassuré de voir qu'il y a moyen de leur parler puis de les calmer, mais en même temps, quand j'entends que par moment, il fallait que les policiers interviennent avec le taser pour les envoyer en psychiatrie, selon toute vraisemblance, là, à la Cité de la Santé, le temps qu'ils se calment, je veux dire, comment vous réagissez, vous, comme psychiatre, quand vous entendez des histoires d'horreur comme ça?
Bien, c'est sûr, c'est inquiétant. Souvent, c'est une clientèle qui n'a pas vraiment de maladie psychiatrique. Donc, on peut pas dire on va traiter quelque chose, puis après ça, ils vont être moins dangereux. C'est souvent des problématiques, parfois de la déficience, des fois de l'autisme, des fois des traumatisés crâniens, parfois de la démence, qui font qu'ils peuvent avoir des espèces d'explosions d'agressivité. Et souvent, ça va être de façon imprévue. Habituellement, quand quelqu'un devient agressif, on est capable de le sentir monter. On a des signes d'appel, on connaît nos patients. Mais il y en a, ça peut être carrément explosif, de nulle part. On ne sait pas exactement ce qui les a contrariés. Et là, ils peuvent devenir effectivement très agressifs. Donc, on n'a pas le choix. Ça prend des lieux et du personnel formé pour accueillir ces gens-là.
Quand j'entends Mme Aubé dire « les agents d'intervention savent quoi faire pour les calmer », qu'est-ce qu'ils font pour les calmer? Quelles sont les techniques qui existent justement pour apaiser?
C'est ça. Donc, la première chose à faire, c'est de la pacification. Pardon. Donc, effectivement, on essaie, par tous les moyens, de diminuer la pression. Habituellement, c'est quand on connaît la personne. Plus on connaît la personne, plus on peut savoir ce qui va fonctionner avec elle. Des fois, c'est d'être rassurant. Des fois, c'est simplement de lui laisser un peu de place. Des fois, et on oublie aussi que des fois, c'est des gens qui s'automutilent. Puis quand on vient pour intervenir, pour les empêcher de s'automutiler, c'est là qu'ils deviennent agressifs. Dans ces cas-là, on n'a pas vraiment le choix. Quelqu'un qui se frappe la tête, là, on intervient. Mais quelqu'un qui est agressif, qui brandit quelque chose, si on connaît la personne, souvent on est capable d'aller chercher pourquoi elle fait ça puis comment la rassurer. Mais ça va varier d'une personne à l'autre.
Mais comment dites, donnez-moi un exemple très concret là. Mettons, il y a quelqu'un qui se frappe la tête contre le mur. Mettons que tu connais son prénom, tu l'appelles par son prénom.
C'est sûr que si quelqu'un se frappe la tête contre le mur, il s'agit de savoir pourquoi. Si c'est par exemple une frustration, là, il s'attendait à avoir un téléphone de quelqu'un, puis la personne n'a pas appelé. Ça peut être aussi banal que ça, là, la frustration qui peut générer ça, parce que dans la tête de cette personne-là, ça devient catastrophique. Fait que si on sait que c'est à cause de ça, c'est de lui dire, regarde, on va essayer de rejoindre la personne, elle va pouvoir t'appeler, il y a quelqu'un d'autre qui va t'appeler, on comprend que c'est ça qui t'a énervé. On essaie d'aller chercher la raison pour laquelle cette personne-là a réagi de cette façon-là. Fait que c'est souvent des frustrations qui, pour nous, seraient banales, mais qui, pour eux, sont catastrophiques. Fait qu'on peut parfois être capable de les raisonner. À d'autres moments donnés, il n'y a pas moyen de les raisonner non plus. Et c'est là qu'il faut connaître les techniques pour essayer de maîtriser quelqu'un sans le blesser et sans se faire blesser nous-mêmes.
Et comment on fait ça?
Ah, mais ça, il y a toutes sortes de techniques, toutes sortes de façons, ne serait-ce que la façon d'avancer vers quelqu'un, la façon de quand on est plusieurs, la façon de rassurer de façon calme. Et là, il y a différentes techniques que je connais pas moi-même, mais juste le positionnement par rapport à un individu pour pas être blessé si jamais il frappe. Si on est deux, on va se positionner différemment. Il y a une façon de maîtriser les par exemple, si c'est quelqu'un qui mord, évidemment, on va s'assurer de pas être mordu, donc on va cibler ce qui pourrait être dangereux, tout en étant le plus respectueux possible du patient, mais en sachant que là, on est dans une situation d'urgence quand même.
Expliquez-moi l'automutilation.
C'est très difficile à comprendre. Parce que ça arrive pas seulement sur des patients psychiatriques. Il y a des gens dans le quotidien qui vont s'automutiler. Et quand on leur demande pour quelles raisons ils font ça, il y a une espèce de tension à l'intérieur. Les gens veulent pas blesser quelqu'un d'autre. Une espèce de tension et de fait de s'automutiler, se couper, se brûler, se frapper. C'est comme si ça libérait un peu cette tension-là et ça la diminue momentanément.
Hein?
Ça peut paraître étrange, mais je vais vous donner un exemple que pas mal de gens ont vécu là, à petite échelle. Si vous faites un sport et vous manquez votre coup, bien, il y en a qui cassent leur bâton, qui lancent leur sac dans le lac, il y en a qui se frappent avec leur raquette, qui détruisent des raquettes. Mais par exemple, détruire une raquette, on ne sait pas automutiler, mais on a quand même détruit quelque chose qui nous appartenait. C'est un geste qui a l'air absurde vu comme ça. Là. On a manqué notre coup et on détruit notre raquette comme si c'était la faute de notre raquette. C'est qu'il y a une espèce de tension qui va se défouler à travers ça. Mais si on peut le transposer en disant qu'on va se faire mal, ben il y a des gens qui le vivent de cette façon-là.
Oui, moi je vais te dire, en tout cas, quand j'entends des histoires comme celle-là, Dr Chamberlain, il y a quelques années de ça, j'étais porte-parole en matière de santé, puis on nous racontait qu'il y avait, les prisons en fait contenaient beaucoup, beaucoup de prisonniers qui dans les faits n'auraient pas dû se trouver là, qui étaient des personnes qui avaient un problème de santé mentale. Et finalement, la prison était devenue comme l'endroit où on les avait parqués parce qu'il n'y avait comme pas d'autre endroit où les envoyer. Et quand j'écoutais ces histoires-là, je me disais, tu sais, un patient qui pose un problème pour l'intégrité physique des employés, mettons que ça arrive à répétition, qu'il s'en prend, qu'il agresse, mettons que tu n'es pas capable de le contrôler, à un moment donné, tu ne peux plus le garder là, tu ne peux pas vraiment le garder dans une unité de soins psychiatriques parce qu'il peut arriver la même affaire. Puis il y en a eu des histoires d'horreur, d'agression dans les hôpitaux ces derniers mois, ces dernières années. Et là, je me disais, coudonc, je veux pas ça, là. Je trouve ça inhumain. Mais je me posais la question, est-ce que la prison devient comme ultimement le dernier endroit où il faut
Non.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, absolument, absolument. Mais absolument pas. Parce que dans une prison, c'est une logique carcérale. Une prison qui est bien structurée s'adresse à une certaine clientèle. Donc, il y a des règles qui s'adressent à une clientèle de délinquants. Et ces gens-là dont on parle réagissent pas comme des délinquants, réagissent pas comme les gens habituels dans une prison. D'ailleurs, quand ils se retrouvent en prison, les gardiens vont vous dire, lui, on le comprend pas. On sait pas comment il marche, on sait pas quoi faire avec, il est dangereux, puis on sait pas quoi faire avec ça. Fait quand on leur fait un Pinel, nous, ben, c'est notre spécifique. Tandis que le contraire est vrai aussi. Si dans un hôpital psychiatrique, on a quelqu'un qui est délinquant, mais c'est pas les mêmes règles. Donc, c'est important de pouvoir séparer cette clientèle. Le Pinel a été créé pour ça. Justement pour permettre à ces individus-là qui étaient en détention, qui étaient vraiment laissés pour compte, de pouvoir avoir un endroit où ils vont être traités, où ils vont pouvoir adresser cette dangerosité-là, et qu'on ne la mêle pas avec une population de détenus, parce que là, ils vont être exploités par les autres, puis ils ne se retrouvent pas du tout là-dedans.
Mais Pinel, est-ce que vous avez suffisamment de place pour vous occuper de tous ceux et celles qui souffrent comme ça?
Non, définitivement pas, parce que c'est des
ça.
lits de psychiatrie. Donc, on peut les évaluer. Il y en a beaucoup de cette clientèle-là qui sont passés sur nos unités d'évaluation où on a élaboré des plans de traitement. On a expliqué quel environnement ça prend, puis quel personnel ça prend, puis comment aborder le patient. La médication peut aider à apaiser un peu, à atténuer les symptômes d'agressivité, mais c'est pas quelque chose qu'on peut traiter parce que c'est justement pas de la maladie. La personne, elle est comme ça. Par exemple, un traumatisé crânien au niveau frontal peut avoir des explosions d'agressivité. On peut, avec la médication, atténuer ça. Mais on ne traitera pas ça définitivement, c'est impossible. Donc, ce qu'on peut faire à Pinel de mieux, c'est sur nos unités d'évaluation, évaluer, faire un rapport pour exactement ce que ça lui prend, mais ça va prendre un endroit qui va correspondre à ça, par exemple.
Et l'endroit, c'est quoi?
Mais ça va dépendre des patients. Ça peut être exactement comme cette maison-là à Laval,
le centre de réadaptation.
Mais avec des lieux sécuritaires, des lieux qui physiquement vont être assez solides, puis un personnel qualifié, par exemple.
Dr Gilles Chamberlain, médecin psychiatre, directeur des services professionnels à l'Institut Pinel. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Dans un instant, on va parler à l'archevêque du diocèse de Gatineau. OK? Puis on va lui parler de cette histoire-là, le testament du prêtre pédophile, hein, l'abbé Paul-André Harvey, reconnu coupable. En fait, il s'est déclaré coupable d'avoir agressé 39 enfants. Il a été condamné à la prison et il est mort. Il est mort il y a quoi, quelques semaines de ça. Et avant de mourir, il a écrit « L'Église savait, ils étaient au courant que j'étais un prêtre agresseur, un prêtre pédophile, et ils m'ont protégé. » Et moi, je veux discuter de ça avec l'archevêque du diocèse de Gatineau.